Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité.
Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager.
L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Bienvenue à tous et à toutes. Le monde change vite, trop vite. Parfois, c'est une évidence, mais une chose ici reste intacte. Prenons le temps, installons-nous confortablement. Je m'occupe de tout. Vous ne vous occupez de rien, si ce n'est peut-être de nous accompagner. Le nom de famille de mon invité est, soyons somme toute, honnête, difficile à prononcer. Zlotowski. Quelques exercices de diction et d'articulation devant mon miroir depuis quelques jours, pour être à la hauteur, m'ont néanmoins permis, malgré tout, de ne pas écorcher votre nom aujourd'hui, Rebecca. Derrière ou sous ce nom, il y a plusieurs vies dans une vie, ou inversement, il y a aussi un film ou deux que vous connaissez sans doute, car au-delà d'être beaux, ils ont fait la grande affiche, comme on dit, la montée des marches. Ils ont connu la lumière chaude et estivale du Festival de Cannes, la semaine de la critique pour Belle Épine et un certain regard pour Grand Central. Point commun entre ces deux films, Léa Seydoux, rien que ça, mais pas que. On en parle aujourd'hui, on éclaircit quelques-uns des mystères du 7e art avec une réalisatrice française remplie d'amour à haute dose, paraît-il. Vous êtes dans la nouvelle édition de l'Instant 2 avec Rebecca Zlotowski.
Un moment, s'il vous plaît.
Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien.
C'est vrai?
Très oui, bien. Très bien, très bien.
Comme ça, un premier mot qui vous vient à l'esprit sur le mood du jour, j'allais dire.
Bon, ça va paraître très trivial, mais depuis que j'ai un vélo électrique, je suis vraiment de très très bonne humeur.
C'est vrai, un vélo électrique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut monter du coup tranquillement sans pédaler, c'est ça, et descendre et se laisser aller un peu.
Oui, c'est vraiment le paradis des flemmardes comme moi. Puis là, j'ai traversé tout Paris pour venir de chez moi à chez vous. Et c'est très agréable de le faire sans effort.
Donc sans effort, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de discuter sans effort. En ce moment, bon, vous avez... Vous travaillez, vous continuez à travailler. Il y a plusieurs mois après la sortie de votre dernier et deuxième long métrage, Grand Central. L'état d'esprit aujourd'hui, plus professionnellement?
Bah, je suis au travail, je suis à l'étude. J'ai toujours l'impression de... J'ai l'impression que ça ne change jamais, ça. J'ai l'impression qu'on se dit à chaque fois, là c'est génial, ça va être différent le prochain parce qu'on apprend, parce que... Puis en vérité, on ne capitalise aucune expérience là-dessus. On se retrouve toujours... Un peu minable après, quand on doit tout reprendre depuis le début.
Dans le générique, on entend Barbara.
Oui, c'est ça, je vous demandais qui c'était, parce que je trouvais que c'était très, très fort juste ce qu'elle disait.
Qui dit, voilà, il faut tout refaire, tous les jours, il faut tout refaire. Oui. C'est être réalisatrice de cinéma, on va commencer par le général, hein, c'est se remettre toujours en question, rentrer sur scène, en un sens, à chaque fois qu'on reprend un nouveau projet, un nouveau travail.
Alors, rentrer sur scène, moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais reformuler des questions, c'est certain. C'est que j'ai l'impression, en fait, que bon, après, il se trouve qu'on traverse une période de régression totale, quoi. Enfin, moi, ou alors peut-être j'y suis sensible parce que je vieillis, j'en sais rien. Parce que j'ai bien 24 ans, 25 ans.
Je vais dire ça comme ça aujourd'hui.
Non, c'est dans le climat de régression totale dans lequel on est, là, j'ai eu l'impression depuis quelques... Enfin, ouais, ça fait peut-être un an ou deux que la nuit se met à tomber. Alors du coup, c'est vrai que les pratiques, chacun dans nos métiers, on a envie de répondre à ça d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, je crois que c'est se demander quelles sont les bonnes questions à formuler. Oui. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire, c'est dur.
C'est plutôt alors sur le comment faire du cinéma, ou pourquoi, ou les deux se mêlent finalement, le sens qu'on donne à un film ou la façon dont on le fait, c'est dans votre travail, quelle est la part de... La proportion, peut-être, on va dire, en tout cas, dans les deux derniers films.
Ce qui est génial, c'est si ça vient ensemble. Mais c'est une super question, parce qu'en vérité, on est au cœur du truc. Hein. Je crois que la question, parce que je suis quelqu'un de pas très manuel, moi. Je suis pas une...
T'es une intellectuelle, Rebecca ?
Ouais, oui, c'est en plus, j'ai pas honte.
Faut pas, surtout pas.
J'ai pas honte, mais ça peut être un fardeau. En tous les cas, c'est une façon d'aborder la matière du monde qui est la mienne, et ça fonctionne plus effectivement par là. Et du coup, le pourquoi commence un petit peu avant le comment. Et peut-être que c'est une erreur, et peut-être que chaque film se pose la question de faire avancer la forme et le fond en même temps. Et le truc génial, ce serait de se poser une question et d'avoir son espèce de résolution dans une forme conjointement, quoi, en même temps. Ça, ce serait formidable. Ça n'est pas du tout arrivé encore, donc je continue.
On revient aux origines. Revenons aux origines, c'est important. En tout cas, le premier long métrage que vous avez réalisé s'appelait Belle Épine, s'appelle toujours, hein, parce qu'on peut toujours le voir, évidemment. Léa Seydoux joue dans ce film, elle a le premier rôle, on peut dire ça comme ça, hein,
bien sûr.
L'actrice principale. Elle a été nommée dans la catégorie meilleur espoir féminin, d'ailleurs. Elle nous en parle dans une interview, on va écouter un petit extrait sonore aussi de ce film Belle Épine, et puis on réagit ensuite ensemble.
Le personnage que je joue dans le film est une jeune fille qui vient de perdre sa mère et qui va transformer sa solitude en rage de vivre. C'est un personnage qui est perdu dans le sens où elle n'a plus d'attache affective, je dirais. Mais en même temps, elle va essayer de se raccrocher au monde qui l'entoure. Donc à cette jeune fille qu'elle rencontre, qui s'appelle Marilyn, qui va... l'introduire auprès d'une bande de jeunes motards. Et voilà, et puis elle va rencontrer aussi des garçons.
Je donnerais tout pour avoir un appart comme ça avec personne qui me fasse chier. Si tu viens me chercher et que tu m'amènes au circuit, je te laisse un double des clés.
Allez, cours !
Je pense que cette jeune fille, elle n'a pas conscience en fait de ce qui lui arrive vraiment. C'est tellement violent et inattendu en fait ce qui lui arrive que elle va prendre plutôt cette tragédie pour de la liberté. C'est malgré elle, mais elle est projetée en avant. Donc et en même temps, elle est attirée par le dehors. Et donc voilà, elle va être attirée en tout cas par le danger, par la sexualité, et puis même par les amitiés féminines.
Entre autres, hein. C'est marrant quand même d'entendre Léa Seydoux comme ça a posteriori, juste sur cette fin de phrase, les amitiés féminines, après quand on sait le futur, la vie d'Adèle, etc., voilà, pour les actualités récentes. On revient à ce film-là, j'ai lu quelques critiques justement, les Un Rock, des critiques qui sont extrêmement positives, si ce n'est élogieuses. Filmé dans une image dense, contrastée, électrique, Belle Épine se construit sur des moments, des sensations, des ambiances qui sont autant de miracles, de justesse, de force, de sensibilité sur lesquels plane l'ombre tutélaire de Maurice Pialat. C'est dans Le Monde, c'était Jacques Mandelbaum qui a écrit ça. Pour un premier long métrage, quand on entend ce genre de choses, qu'est-ce que ça fait pour une réalisatrice? Non, honnêtement, vraiment, parce
c'est
que
trop c'est... sympa.
Ça fait plaisir, sympa. Voilà, ça, on va ah pas bah, se mentir. Fait...
Non, mais alors, je vais même vous dire autre chose, c'est que ça fait. Alors, bon, là, moi, sur Pialat, on pourrait en discuter parce que c'est pas. Comment dire, ça c'est vraiment un tropisme très, je pense, lié à la critique française. Il y a des cinéastes comme ça qui sont tellement colossaux, importants, qui ont des schémas de fabrication de films et de jeux, bon, alors, qui font que de temps en temps on les reconvoque tout le temps. Pour d'autres, ce sera tout le temps Scorsese. Pour certains, ce sera tout le temps Pialat ou Cassavetes. Bon. Alors pour moi, précisément, c'est des cinéastes qui sont des très 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 mauvais exemples. C'est-à-dire que c'est des génies, mais des mauvais exemples à suivre. Donc c'est drôle, et puis surtout, j'y pense pas du tout. Mais pour répondre vraiment à votre question sur à quel moment c'est crucial quand on entre dans l'arène, quoi, de se sentir écouté, regardé et
jugé aussi.
Alors je dirais et reconnu hein, par la critique. C'était en tous les cas dans mon cas. Même si elle n'était pas du tout unanime et ce n'était pas souhaitable, mais c'était très important parce que ça m'a permis d'en faire un deuxième. Je pense que mon premier film, vu l'échec commercial qu'il était, je crois que s'il n'y avait pas eu... Alors c'est en plus, c'est vraiment à mettre au crédit d'un système français qui est bien, c'est que quand la critique vous reconnaît, ça vous donne quasiment la possibilité d'en faire un deuxième. Le fait que le film soit allé à Cannes à la semaine de la critique, que la critique ait été comme ça amicale, bienveillante à l'égard du film, qu'elle l'ait vu, quoi, ça a été très 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 important pour moi.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Sur Radio Grenouille. C'est un film qui a été... Enfin, le scénario a été écrit dans le cadre d'un projet cinématographique quand vous étiez à la FEMIS.
C'était mon diplôme, moi, de fin d'études à la FEMIS. Moi, j'avais pas très envie de réaliser. J'étais pas... c'était pas une vocation, quoi. C'était pas du tout une vocation et c'était pas du tout même un... C'était pas un horizon social, c'était pas un horizon professionnel pour moi.
Le cinéma.
Alors, le cinéma d'abord, mais ensuite, ça l'est un peu devenu le cinéma d'abord parce que quand vous dites « Revenons aux origines », vous avez fait un premier film. Moi, mes origines, elles remontent bien avant le premier film. Il y a vraiment...
Je ne vais pas revenir au berceau.
Non. Est-ce qu'on peut revenir au cri primal, s'il vous plaît ? Non. En plus, je ne fais pas d'analyse. C'est vraiment pas... L'idée n'est pas de revenir à la petite enfance, mais j'avais une toute autre vie avant, qui était une vie d'enseignante, quasiment. Je me destinais vraiment à l'enseignement. Et ça a pris beaucoup de temps dans ma vie. Ça a pris quasiment... ça a pris 10 ans d'études, quoi. Donc, c'était une vraie vie avant, quoi. Mm-hmm. Et bon, à partir du moment où je suis entrée à la FEMIS, j'ai eu le désir, vraiment, de faire du cinéma ma vie. Mais je venais d'un monde dans lequel c'était difficile d'embrasser une carrière artistique. Parce que c'était trop... voilà, c'était un truc de saltimbanque, quoi. Vraiment, je venais d'une famille dans laquelle c'était pas possible d'en faire son métier, quoi. Si bien que la réalisation, c'était même pas envisageable, parce que c'était un métier trop flottant, quoi, trop abstrait, même pour moi. Et Belle Épine, c'était mon projet de fin d'études. Un producteur qui était tout jeune, qui avait rien produit, m'a rencontré en sortant de l'école, parce que j'étais en scénario, j'étais élève en scénario, et m'a proposé non seulement de le produire, mais que je les réalise. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est une vraie chance, à ce moment-là, on se dit... Qu'est-ce qu'on se dit ? C'est une opportunité, ça fait peur, c'est angoissant, qu'est-ce qui arrive en premier ?
Oh non, je
vais
beaucoup de simplicité, beaucoup de... Bah, le fait de ne pas avoir, je sais pas, investi ce métier d'une pression d'ordre social, disons, ou d'un truc qui signifierait quelque chose familialement, c'était plutôt un chemin de traverse, quoi. Donc je le faisais avec beaucoup d'insouciance, hein.
Ce qui parfois aussi donne de belles choses, c'est peut-être plus une simplicité qui à l'écran se retrouve aussi.
Ouais, bon, ça donne peut-être aussi des défauts. J'en sais rien. Enfin, ce qui est, je reconnais à. Enfin, disons que pour ceux qui aiment bien mes films, ils se disent c'est une chance que ça me soit arrivé. Pour ceux qui les aiment pas, ils se disent c'est dommage. Elle aurait dû faire autre chose. Mais en tous les cas, non, je me suis pas posé de questions, quoi. J'ai rencontré quelqu'un qui avait plus confiance en moi que moi je n'avais confiance en moi à cet endroit-là.
On parlait des réalisateurs, des inspirations, des génies. Alors, Pialat en fait partie. Malgré tout, même si vous dites que c'est peut-être une erreur de comparer ses propres films à ces génies-là, il y a quand même des inspirations. Truffaut en fait partie.
Oui, j'adore, moi, Truffaut. Mais disons que, voilà, moi, je suis toujours gênée, en fait, quand on me pose la question des inspirations. J'ai l'impression que c'est une question qui vient d'un autre âge. Parce que Alors, pas du tout pour...
Je suis pas si vieille, quand même, Rebecca.
Non, pas du tout pour votre question. Elle est légitime, puis moi aussi, quand j'essaie de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un réalisateur ou d'un musicien que j'aime bien, ça m'intéresse de savoir ce qu'il aime lui-même. Mais j'ai l'impression que la question des mentors ou des références écrasantes qu'on peut avoir ou qu'on essaierait de suivre, ou même des dogmes de cinéma, voilà, moi, ça m'enferme plus qu'autre chose. C'est-à-dire, je viens vraiment d'une génération dans laquelle on a, j'ai envie de dire, on a fait feu de tout bois, quoi.
Mais ce qu'on aime nous colore aussi, c'est positif. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que l'inspiration.
Mais
peut
ce que je veux c'est qu'il faudrait
ce
beaucoup de temps. Il faudrait qu'on commence par. C'est au cœur de la culture pop, quoi. Moi, j'ai l'impression que je fais partie de. Je m'inscris dans une culture pop qui irait puiser dans la culture populaire, dans la culture noble, dans la sous-culture, dans un truc misérable culturellement. Et donc, il y a de tout, quoi. Il y a de la télé-réalité, il y a du. Il y a de la série B, il y a de la musique, il y a du clip, il y a de l'expérimental, il y a de l'art contemporain. Alors, ça mettrait un temps, et évidemment du cinéma, et ça mettrait un temps fou. Mais alors après, maintenant, je me suis forcée un peu à me souvenir de qui me bouleverse à chaque fois que je vois ces films. Et c'est vrai que c'est pas... on est davantage aux États-Unis par exemple, qu'en France. Et en même temps, on serait entre l'Italie et les États-Unis, ça donnerait la France. Voilà.
Ah oui, ça fait long, hein, comme distance. Voilà. Mais justement, en parlant de cinéma français, vous savez, on parle souvent de ça, hein, le cinéma français, le cinéma d'auteur. Alors parfois, tout ça se mélange. Et puis, quand on aime un film, ça fait toujours bien de dire oui, c'est du cinéma d'auteur ou du cinéma français. Quand on n'aime pas, on dit oh, c'est vraiment du cinéma français. Il y a un peu cette chose-là qui fait que finalement, c'est un terme qui est dévoyé. On ne sait plus vraiment quoi mettre dedans. Est-ce que vous considérés, ou pas d'ailleurs, faisant partie de la nouvelle génération d'un cinéma français, d'un cinéma d'auteur, de jeunes réalisateurs.
Bah oui. Enfin,
Et de quelle manière, justement?
Je vois pas comment dire. Alors, dans le mot génération, ça sous-entendrait, est-ce qu'il y a une affinité esthétique? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un postulat, disons, comme certaines vagues on voit en Argentine, aux Philippines, où le dogma de Winterberg, là, il y a vraiment des gens qui font des écoles. Bon, nous, c'est pas le cas, je dirais pas. Mais c'est l'évidence que je fais partie d'une. Enfin, moi, je le sens, en tous les cas. Je me sens alliée, amie pour certains, concernée par le travail que font les gens de ma génération en France. Et même pas que ma génération, les gens de la génération un peu au-dessus. Moi, je suis une passionnée de cinéma français, j'adore ça. C'est-à-dire, quand je vous parlais de mes inspirations qui venaient plus des États-Unis, de l'Italie, ça n'exclut pas le fait que ma cinéphilie, elle a commencé, on va dire, avec Arnaud Desplechin. Ma vraie cinéphilie de fille qui va au cinéma, qui paye sa place pour voir un cinéma exigeant, c'est Arnaud Desplechin, les premiers films que je vais voir, je pense. Ouais. Arnaud Desplechin, Noémie Lvovsky, Claire Denis. Donc pour moi, il y en a d'autres que je dois oublier, après je vais m'en vouloir, parce que je me dirais, tiens, c'était super important, Grand Rieu. Donc il y a vraiment comme ça... pour moi, le cinéma français est d'abord l'un des plus forts. Ces 6 derniers mois, ça nous en donne quand même la preuve. Ou même ces 2 dernières années. Moi, j'ai jamais vu autant de très bons films sortir dans un pays ailleurs qu'en France. Donc, je me sens très, très, très engagée dans le cinéma français, très liée aux metteurs en scène qui essayent de se poser des questions de la même manière, à nos privilèges d'une certaine manière, parce qu'on le fait d'une manière beaucoup plus libre que dans d'autres pays, ça, c'est certain. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué que quand on n'aimait pas mes films, on disait c'est vraiment du cinéma français. Et quand on les aimait, on disait oh, c'est vraiment du cinéma, on dirait du cinéma américain. Donc bon, je pense qu'il y a une détestation de soi qui est toute française, hein, ou une certaine honte de ce qu'on peut faire et que je partage pas du tout, non.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
En parlant de cinéma français, il y a un film qui est sorti récemment que vous avez peut-être vu, un premier long métrage aussi. Une jeune réalisatrice qui s'appelle Maestro.
J'ai pas vu.
Alors, c'est pas grave, justement. C'est le principe de cette émission.
J'avais envie, c'est j'ai pas vu.
On va écouter la bande-annonce. Et c'est une façon aussi, peut-être, de se moquer gentiment au départ, comme ça, d'un certain cinéma. Le cinéma de Romère, par exemple, ou d'autres. Mais finalement, le film est si bien fait que ça finit par être un vrai hommage. On l'écoute, si ça vous dit, puis on en discute après.
Bah, bonjour, je m'appelle Henri Renaud, j'ai 27 ans.
Bien, tu peux enlever ton t-shirt pour voir ton ventre. Super, merci, ce sera tout.
Je rencontre des jeunes acteurs pour mon prochain film.
Alors, que avez-vous joué au théâtre?
J'ai joué Shakespeare.
Surtout, ne lisez pas trop vite.
Arrivé sur le bord du Lignon.
Non, t'es encore un peu rapide, ça.
Vous ne dites rien que la perte de celui...
Ah, mais c'est un vrai rôle. Un cinéma, mec. Du cinéma, quoi. On va dans des 5 étoiles. Non, tu m'as fait une thune.
C'est 5 étoiles, ça.
22 sur 3, première.
Henri, la réplique. C'est pas au petit bonheur la chance, hein, le texte.
Ah, bah t'es mignonne comme ça.
Mignonne.
Tu sais ce qu'on vit, là, bientôt, ça n'existera plus. Cette poésie, cette délicatesse.
Il n'y a pas de budget, j'en ai marre. Je travaille comme une malade.
Ça sent bien votre film, les gars.
Action.
Gloria, c'est moi qui l'ai vu en premier.
T'as aucune chance avec elle.
Toi non plus, tu n'as aucune chance, elle n'aime pas les filles.
Astrée s'avance ardentement. Semi dit, trop chiante ta meuf, je la kiffe gros.
Vous savez, moi, la poésie, je suis pas sûr de bien comprendre, en fait.
Ah non, mais il n'y a rien à comprendre. Il faut la sentir et la vivre. Et il faut avoir été malheureux en amour, peut-être. Jouissez de la vie. Il est beaucoup plus tard que vous le pensez. Henri, qu'est-ce que ça veut dire « je la kiffe gros »
Avec le grand Lonsdale, hein, vraiment, vraiment, qui est fabuleux là-dedans. Et puis Pio Marmaille aussi, qu'on découvre dans un rôle beaucoup plus profond, qu'il a peut-être pu jouer
ça
aussi.
Ça donne envie, là, cette bande-annonce, ça a l'air très drôle.
Et voilà, une réaction à chaud, juste sur la bande-annonce, sans avoir vu le film. Sur cette poésie, peut-être, du cinéma, en même temps, cette prise de tête, peut-être un peu trop intello sur un certain cinéma, qui en même temps est une beauté au moment du tournage.
Vous voulez m'emmener là?
Non, je vous emmène où vous voulez, Rebecca.
Non, ce que je retiens, c'est la comédie. C'est-à-dire que je me dis, c'est fort quand même d'arriver à faire rire. Et c'est dur, putain, c'est dur, c'est dur, c'est dur de... Je mets un bélier dans une porte ouverte, dans un courant d'air, mais c'est dur d'être profond dans la légèreté, quoi. Ça, c'est super dur. Et là, la bande-annonce me fait rire, voilà, ça me fait rire. Et j'adore la réplique « T'as quel âge ? Soulève que je vois ton ventre, ok, c'est terminé. »
Sur les castings, justement.
Ouais, ça, c'est drôle. Bon. Après, est-ce qu'on
fait du... Ou la productrice qui n'a pas de budget.
Et qui hurle, tout ça. Voilà, moi, je suis sans hystérie. Donc, c'est vrai que je me... Dans le schéma d'un cinéma...
Passionné,
oui, comme passionné, ça, désordonné, oui. Chaotique. Voilà, peut-être que c'est mon secret... La raison inavouable pour laquelle je fais du cinéma, ce serait justement d'arriver à sortir un peu quelque chose de dérailler un petit peu. Mais je suis vraiment sans hystérie, c'est-à-dire je j'aime pas trop le conflit.
Je suis hyper chiante. Un conflit sans hystérie, par ailleurs.
Oui, mais bon, ça va souvent ensemble. Hein. Bon, il y a quand même l'idée d'un excès. Je suis pas excessive, voilà. Alors, je suis peut-être excessive d'une autre manière, mais donc je ne me reconnais pas dans les configurations alléniennes, Woody alléniennes ou là. Mmh. De cette bande-annonce, d'un cinéma qui se ferait dans le chaos, dans l'excès, dans le déchirement, tout ça, c'est pas comme ça.
Ce n'est qu'une bande-annonce après.
C'est, ouais, ouais,
c'est
mais...
toujours le problème d'une bande-annonce d'ailleurs.
Qu'est-ce
qu'on dévoile, qu'est-ce qu'on dévoile pas dans une bande-annonce?
Non, mais c'est une certaine idée, on se parlait de là tout à l'heure, c'est une certaine idée de. Je sens bien que le cinéma, il a envie de vous donner que dans une équipe, il y a un truc qui se met en place, qui accueille, qui légitime. Les excès et l'hystérie des metteurs en scène et des acteurs. Ça, je l'ai constaté. Je vois bien que les moments où on s'énerve, bon, je ne sais pas dire que je ne peux pas m'énerver, je peux engueuler, je peux m'énerver, je peux être dur, quoi. Mais et j'ai senti que dans ces moments-là, l'équipe était comme en attente de ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je donne peu à mon équipe. Ça arrive de manière froide, oui.
Ah oui, d'accord. Colère froide, Rebecca.
Moi, j'ai plus une colère froide, oui.
Colère froide. En parlant de casting, on y revient aussi sur votre façon de caster les acteurs. Alors, une question que je me pose, hein, Léa Seydoux, comment ça s'est passé? Par exemple, elle apparaît donc dans votre premier film, Belle Épine, et puis aussi dans Grand Central. Elle a deux rôles principaux. Ça s'est passé comment?
Hyper simplement. En fait, j'ai pas découvert, moi, Léa Seydoux. C'est Christophe Honoré. D'abord, Sébastien Lifshitz avait tourné avec elle. Et ensuite, Christophe Honoré lui avait donné l'un de ses rôles principaux dans La Belle Personne. Mmh. Et c'était, je me souviens plus très bien du film, sauf qu'il m'avait plu, et que j'avais vu l'affiche de ce film. L'affiche était très belle. C'était un visage comme un visage décapité de Léa, en brune, avec un teint très 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 pâle, sur un fond rouge, avec les lettres en jaune. Enfin, je sais plus. Cette affiche, elle avait circulé dans Paris pendant tout un hiver, et donc je l'avais vue. Et elle m'avait comme ça accompagnée, alors que sans doute je devais déjà être en train de réfléchir au casting. Et comme c'est quelque chose que je déteste, moi, le casting, enfin, je déteste. J'ai découvert ce que c'était que le travail de la direction de casting.
J'ai découvert en faisant.
Oh là là, ouais. Et c'est devenu comme un début de répétition, comme un début de travail avec les acteurs. Donc j'ai fini par adorer. Mais je détestais, je trouvais que c'était comme une violence capitaliste, industrielle, de devoir faire passer des gens, de leur demander quelque chose pour leur donner éventuellement ou non. Selon mon bon plaisir,
le poste qui est important là-dedans, ou non.
Ah ouais, ça, c'était une angoisse pour moi, c'est vrai. Hein, c'est toujours une angoisse d'ailleurs. Et si bien que je me suis dit, il fallait partir très très vite avec quelqu'un. Donc Léa, par exemple, alors que c'était le rôle principal d'un premier film, avec une consonance, aujourd'hui je le dis, à l'époque j'étais trop pudique, je sais pas pour le dire, mais c'est ultra autobiographique. C'était vibrant, quoi. J'en ai chialé de le tourner ce film ou de l'écrire. Et personne ne comprenait que je ne vois qu'une actrice. Mais c'était très important pour moi d'établir un pacte de responsabilité mutuelle avec l'actrice. Donc j'ai vu Léa, je me suis dit, elle est formidable. Je l'ai rencontrée, je l'ai adorée. Et je me suis dit, bah, très bien, t'as le rôle, on va le faire. Je tâtonne toujours, hein, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment ce qui marche avec les acteurs. J'ai un peu du mal parfois. Parfois j'adore ça, parfois j'aime pas du tout. Avec certains acteurs, c'est vraiment c'est d'une évidence. Par exemple, je crois qu'avec Léa, cette espèce de je crois que c'est aussi... Je lui sais d'avoir inventé quelque chose de la féminité, Léa. Je crois que j'attends au fait de mes acteurs d'avoir plus d'imagination que moi sur certains endroits. C'est pas au metteur en scène de tout inventer, quoi. C'est pas à nous de tout faire.
Donc, donne des tendances, quoi. Donne des...
Bah, j'ai l'impression que des actrices comme Catherine Deneuve, comme Annie Girardot, comme Léa Seydoux, je sais pas qui serait une actrice qui pour moi... comme Isabelle Huppert, elles ont inventé quelque chose du féminin qui me plaisait. Et je compte sur elles pour réinventer des rôles, pour les interpréter. Et Léa fait partie de ces actrices-là qui, pour moi, en plus, ont de l'imagination sur le féminin.
Féminin, masculin. On fait une petite pause musicale avec un morceau que j'ai choisi avant que vous nous proposiez le vôtre, qui va vous plaire, s'appelle Gay and Proud. On écoute.
Yeah. They got to know, they got to know. My name is Ira and I'm here to say a lot of my friends are secretly gay. Born that way and scared to admit because of the stigmas attached to it. And it's no fair and it's not cool. Being yourself is the golden rule. Don't be scared to be queer. Gay is the new chic this year. Hypocrites and conservatives poisoning the minds of innocent kids. Stop the hate, consider a minute. Homophobia makes you a bigot. Why are you so afraid of gay men if all your pornos lesbian? You hate fags and homos too, cause you think they wanna have sex with you. A bit confused, change your views. The world is so fucked cause of your attitudes. Ignorance is a disease to all you misogynistic MCs. Take a second and listen to this. You fucking Nazi son of a bitch. You're not a racist or sexist, hey, but you hate gay people because they're gay. It's 2010, raise your voice. Motherfuckers think being gay is a choice. Believe in the Bible, read it then. Jesus preferred the company of men. Boys and girls have different parts, but it's all the same thing in the dark. It's your time and it's your world. To all my playboys that read Playgirl, to all my playgirls that read Playboy, say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. How can you discriminate when anal sex feels so great? Human rights, do whoever you like. Come out of the closet and live your life. Easier said than done, I know. When your family disowns you, where do you go? Reality is, people are different. You can be ignorant or you can get with it. Fundamentalists are embarrassed at their son and daughter's gay marriage. Don't be stupid, don't be crass. Even hockey players slap each other's ass. Jeffree Star, Amanda Blank, stereotypes are pretty rank. Moral and natural, making it work. My boyfriend is a priest at your church. Me and my crew, we do it all. Boys kiss boys like kids in the hall. Explain to me how that makes sense. Do you hate backyards cause you painted a fence? What's the point of getting violent? The truth can never, ever be silent. Social justice, nothing but this. Social justice, nothing but this. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, gay and proud. We're here, we're queer, get used to it. Say it loud, say it loud.
Dans l'instant 2, Rebecca Zlotowski, ça y est, je le prononce très correctement. Il y a beaucoup d'entraînement sur.
Voyez mon quotidien, voyez mon calvaire.
C'est,
voilà, c'est un peu dur.
C'est, ça. C'est un vrai nom, par ailleurs.
Oui, bien sûr.
C'est pas un pseudo.
C'est vraiment le pseudo le plus con de la Terre.
Oui,
le pseudo très très long. Cela dit, c'est une bonne question, parce qu'en fait, le nom de ma famille, c'est Zloto. Et Zlotowski, ça a été un nom polonisé. Bon, ça fait très très juif pour nous français, mais en vérité, c'est un nom très très polonisé, très chrétien. Que mon grand-père a utilisé pendant la guerre. Donc on est les seuls, on n'est que 3 ou 4 à s'appeler Zlotowski dans ma famille.
Bon,
c'est très intéressant. C'était très intéressant.
On a écouté Gay and Proud de Ruby Steiner. Ouais. Vous aimez cette chanson?
Ouais, je l'aime beaucoup. Ouais.
Pourquoi?
Je sais pas, je la trouve énergique. J'aime bien, j'adore la ligne Jesus Preferred de Company of Men. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Et ouais, effectivement.
Mais c'est un vrai acte politique quand même, hein, en chanson.
Alors,
les paroles sont.
C'est formidable, c'est formidable. En fait, c'est un duo en plus avec. C'est Ira.
Lee.
Ira Lee et Ruben Steiner. Okay. Ce qui est beau, c'est le moment où je pense des DJ noirs qui ont une street crédibilité, on peut commencer à dire ça suffit là, c'est être homosexuel, c'est possible. Mais je pense que c'est un vrai débat qui se pose dans la dance music ces 10 dernières années, qui est la dance music et le rap, et de se dire bon, à quel moment on est homophobe et à quel moment on est en 2014, quoi. Les choses
qu'on... en 2015, 2016,
2017, oui. Non, je trouve que c'est très militant, c'est bien, il faut toujours... Disons que c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'aurais dit... J'aurais pas été, voilà, j'ai pas un tempérament militante. Et là, en fait, je crois que c'est de plus en plus important de dire, bon, on va, je suis désolée, on va être chiant, on va redire que les femmes et les hommes ont les mêmes droits, on va redire que les juifs et les arabes sont pas obligés de se détester, on va redire que les homosexuels et les hétérosexuels doivent être considérés à égalité. Ça me paraît... triste qu'on doive le rappeler, et pourtant il faut le redire.
Peut-être, ouais. Ouais. Et dans vos films, vous considérez pas comme militante, ça veut dire quoi, dans la vie, ou est-ce que dans vos films,
Disons que je suis politisée, mais je suis pas, quand je dis militante, c'est que je m'engage pas dans, vous me voyez pas sur une liste électorale.
D'accord.
Je suis pas encartée dans un parti, je suis pas dans des associations, c'est que j'ai pas un parcours associatif. Ça m'est arrivé à un moment, mais c'est plutôt dans, ouais, je dirais que c'est au cinéma que j'ai une responsabilité à l'idée d'envisager nos outils d'un point de vue aussi j'essaye de trouver des manières de le dire qui soient pas chiantes et qui soient pas sentencieuses et qui soient pas, c'est juste on est engagé, quoi. Ouais, je me sens engagée, c'est certain.
Parce que dans Grand Central, votre dernier film par exemple, il y a la question du nucléaire est au centre ou pas, que tout dépend comment on regarde le film. Il y a une question aussi de regard, mais elle en fait partie en tout cas.
Alors c'est là que je vais un petit peu, quand je dis je me sens engagée, je me sens autant engagée d'un point de vue formel, c'est-à-dire à défendre un cinéma de poésie, que voilà, pour moi le mot engagement, ça recouvre pas forcément une prise de position sur des faits de société. Voilà, c'est vraiment un engagement total sur le
fond et la forme.
Ouais, c'est sur le sentiment de liberté qu'on doit, sur le sentiment, sur la liberté qu'on doit, qui est la seule chose digne d'être poursuivie en tout point. Donc ça peut passer par un engagement politique, ça peut passer par un engagement esthétique, voilà. Les deux fonctionnent ensemble.
Esthétique aussi, la musique est très importante dans vos films. Il y a un certain Rob, on en a parlé, qui est votre compositeur. On peut dire ça, un compositeur attitré, une préférence. Il y a souvent ça, hein, des réalisateurs travaillent souvent avec le même compositeur sur plusieurs films. Vous pouvez m'en parler un peu ? Qui est-il,
bah, volontiers.
Et puis quelle est la place, alors, selon vous, de la musique dans des films ?
Moi, disons que c'est... Alors, je parle volontiers de Rob parce que c'est vraiment un compositeur formidable. C'est vrai qu'on a fait notre premier film. Enfin, moi, j'ai fait que deux films, donc c'est difficile de dire attitré, mais c'est vrai qu'on en a fait deux ensemble. Je pense que le prochain, je sais que j'ai envie de lui demander de travailler avec lui.
On est sur la voie de l'attitré, peut-être un peu.
Oui, enfin, c'est un collaborateur très, très, très précieux, quoi, pour moi. Mm-hmm. Puis surtout, au bout d'un moment, arrive ce moment où vous avez tellement bien travaillé avant que c'est encore plus facile de travailler après. Bon, il ne faut pas s'endormir... Faut pas s'endormir dans des recettes, mais je trouve qu'il en a pas, c'est-à-dire qu'on peut travailler en même temps l'analogique, il est aussi fort, disons, en composition qu'en musique de synthèse. Enfin voilà, il y a quelque chose de très divers chez lui qui me plaît. On fait partie de la même génération. Rob, c'est vraiment un compositeur qui commence à faire des musiques de films avec Teddy Lucie Modeste et Belle Épine. Teddy Lucie Modeste, c'est un réalisateur avec qui je travaille, dont je suis la scénariste. Et il avait fait le score de Jimmy Rivière. Et il a travaillé conjointement sur deux films que j'avais écrits, l'un que je réalisais et l'autre que je ne réalisais pas. Et c'est devenu vraiment quelqu'un de très, très, très... un collaborateur super régulier et précieux pour moi. J'aime bien sa manière d'envisager la musique parce qu'il sait que je lui laisse une place très importante. Pour moi, c'est un instrument de narration, c'est du scénario, quoi. C'est-à-dire, au moment où j'écris, parfois d'ailleurs je me repose un peu trop là-dessus, au moment où j'écris, je me dis, alors il y a des réalisateurs, des scénaristes qui écrivent un peu, on le sent quand on lit des scénarios dans les commissions, on sent qu'ils ont mis trois petits points en se disant, là il va y avoir un moment de grâce au tournage. Bon, moi je fais pas ça, mais je mets, j'ai en tête que la musique va reprendre, va prendre le relais, quoi. Et je sais que souvent j'ai donné à lire les scénarios à Rob avant même de tourner, quoi. C'est-à-dire que j'ai une manière de... Je mets un peu la charrue avant les bœufs avec la musique, ouais. J'ai besoin de la musique au moment de l'écriture. Si j'avais l'argent, je la ferais même composer avant, quitte à la recorriger et en faire un tout autre. Enfin, ce serait comme deux bandes annonces, deux bandes originales. Il faudrait la bande originale du tournage, de l'écriture, et la bande originale du film terminé.
C'est tout ce que je vous souhaite.
Ce qui coûte une blinde, ce qui ne m'arrivera jamais.
Dans quelle mesure vous vous laissez surprendre au cinéma pendant que vous réalisez un film, Rebecca, et dans votre vie ? Par l'imprévu, ce qu'on n'attend pas.
Je peux pas vous dire, pas beaucoup. Enfin, peut-être pas beaucoup et tout le temps, j'en sais rien. Je suis pas une, j'aime pas trop les surprises, par exemple.
Alors, ah oui.
C'est vrai que je parle d'un truc joyeux. Hein. Par exemple, j'aime pas les surprises d'anniversaire. Mais pendant 10 ans, mes amis m'ont fait des surprises d'anniversaire.
Vous leur avez dit à un moment donné.
Ah bah ouais, je me suis fâchée au bout d'un moment. J'aurais dit, mais en fait, vous faites plaisir à qui ? Vous faites plaisir à vous ou à moi ? Moi, ça m'angoisse. Moi, c'est un truc d'angoisse. Mais je pense après, c'est lié à des. Après, j'ose plus dire ces trucs-là, parce que ça fait vraiment... Ça va tellement à l'encontre de ce qui est, accepté socialement. Socialement, on devrait être spontané, adorer la surprise, être disponible à l'imprévu, etc. Et pas être dans le contrôle. Et moi, je suis pas psychorigide du tout. Hein. Ma vie est faite de manière très, très, très chaotique. Je suis pas une femme qui... Enfin, voilà, je vis seule, j'ai pas d'enfant. Ma vie, elle est très libre, quoi. Je voyage... Tout le temps, les jours ne se ressemblent pas. Donc voilà.
Énorme.
Donc quand je dis ces choses-là, ça peut laisser entendre un truc qui n'est pas ma vie. Mais j'avoue que je ne suis pas spontanée, bon. J'aime pas
les surprises. On va essayer ensemble d'aller contre, vraiment, je vais essayer de vous apporter quelque
violence.
Chose
Faites
dans votre
violence.
Vie, si je peux me le permettre. Vraiment, ça me ferait un plaisir immense. Il y a, on parlait de Rob, votre compositeur, allez, on va dire attitré pour en tout cas les deux derniers films de long métrage que vous avez fait, qui est quelqu'un de précieux. Il y a une autre personne précieuse, je crois, dans votre vie, qui a voulu, c'est le thème de l'émission aussi, vous faire une petite surprise, vous décrire, écrire pour vous, vous dire des choses. Voilà. D'accord ? On écoute ?
Parlez-moi d'elle.
Instant.
Comme si c'était la première fois.
Dans tes classeurs de lycée, il y avait tes rêves et tes secrets. Sortie des limbes, la voix d'une toute jeune fille apparaît. Méticuleusement, elle décrit des ruines helléniques. On entend aussi en fond sonore la BO de Jackie Brown alors qu'elle franchit le Bosphore. Plus tard, dans un train, elle se liera avec un inconnu avant de rejoindre la pointe sud de l'Espagne. À New York, elle rencontre Lodge Kerrigan. À la Villa Médicis, c'est la douceur de vivre et les virées en Vespa. Au film de l'après-midi Place de Clichy, se succèdent des allers-retours à Lyon-Pardieu, des escapades à Los Angeles et Syracuse, un dimanche très culturel à Louvre-Lens. Et si on allait voir la Bostella ? Et si on organisait une fête là, tout de suite ? Attends, j'appelle Emma, Louis, Nikki et Teddy, Géraldine et Ulysse. Devant le Queen, elle fume tard. Le Pulp, tard aussi. Elle découvre un autre Paris au Baron, à la soirée Prada. Ensuite, les retrouvailles à la Terrassa, Café Martini, le Cupping Room chez Francis. Rejoins-nous à la Closerie pour la naissance de Tessa. Depuis Beyrouth et Manille, elle envoie des cartes postales à Saadi. Sur la Côte d'Azur, il y a un hôtel que l'on surnomme le Martin Z. Papa est en goguette rue d'Antibes, et surtout, il y a Nelly à Nice. À Lombon, voilà ton sourire, qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. C'est aussi la quinzaine, la critique, le regard. Constance, Jimmy, Prudence et Gary. La pluie aussi, et un bain de minuit. Vaillante, elle porte des talons très hauts et possède un perfecto noir, un perfecto marine, et un autre perfecto noir, doublé satin celui-là. Rue des Minimes, elle reçoit la lettre d'un de ses anciens élèves. Faut-il ou ne faut-il donc pas démissionner de l'éducation nationale ? Pour la nouvelle année, on file passer le réveillon avec Kate Mass, c'est Bill Murray dans ton salon et la musique entêtante d'Europe sur une moto. Une nuit à regarder les Oscars en streaming. Au printemps, tu fredonnes à tour de rôle une chanson des Chromatics, My Neck, My Back, I'm Gay and I'm Proud, J'ai envie de vivre. Une fois le travail accompli, c'est la routine joyeuse du Joe Allen du dimanche soir, un Bloody Mary avant un ticket de ciné pour une double séance. Elle aime, follement, successivement, un jeune joueur de jazz français, un musicien électro-français, son meilleur ami et alter ego, un cinéaste. Tu sais, ma petite, l'homme de ta vie, tu le connais déjà. Et l'amour seul ne suffit pas. Être ensemble, c'est regarder dans la même direction. Eve et Leda, Rebecca, c'est un amour à haute dose, cette fille.
Sophie, Maës. Une amie,
oh là
ça
là.
Comme ça, une bonne amie de longue date, je crois.
Ah oui.
Rebecca Zlotowski dans L'Instant 2, et elle est larme aux yeux, voilà.
Ouais, ouais, je suis super.
On peut le dévoiler un petit peu.
Mais moi, je devrais faire l'école des fans, les trucs comme ça, je serais une hyper bonne cliente, quoi. Je serais hyper bien. Je suis trop émue, je suis très très très... En fait, surtout, je réfléchissais, je me disais, mais... Bon bref, allez-y, je réfléchissais rien, je suis hyper... J'aime bien cette surprise, elle est bien.
Ouais, elle est pas mal. Ouais. Et une fête d'anniversaire, justement, là, on peut reprendre un petit peu. Vous allez m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment des mots de Sophie, qui a été très émue aussi en le faisant, voilà, pour vous. Elle dit, si on organisait une fête, là, maintenant, tout de suite, les fêtes organisées à l'improviste, c'est ça ? C'était quoi, cette fête ?
Alors, c'est marrant, parce que j'y repensais il n'y a pas longtemps. On était allé voir, alors c'est drôle, parce que bon, j'ai plein de cinéastes qui m'ont plus marqué, disons, que le cinéaste Édouard Baer. Mais c'était une époque de notre vie, enfin plus marqué. En l'occurrence, ce film-là nous a tous beaucoup marqué, puisqu'on vivait ensemble, à plusieurs amis, dans un grand appartement. C'était un peu la première fois qu'on... Enfin, moi, c'était pas la première fois que je partais de chez mon... Que je vivais seule, mais bon, c'était un peu notre première fois. On avait, je sais pas, 19 ans, 20 ans, on partageait un loyer. Et on était allé au cinéma, et certaines faisaient des études encore très, 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 comme ça, exigeantes. D'autres étaient plus à la cool, comme moi. Et c'est vrai qu'on est allé voir ce film, La Bostella. On est sortis, ça nous a mis dans un tel état festif qu'on a organisé une fête au débeauté. Une grosse fête, quoi, un truc avec 100 personnes, quoi. Un truc vraiment énorme, pas juste venir. Et on a fait un truc comme ça, un peu... Et on s'en est souvenu comme d'un moment... comme d'un moment de vrai, ouais, voilà, le moment de un moment de fougue.
Un moment de fougue.
Enfin, j'aimais bien l'idée que ce soit en sortant d'un film. De temps en temps, quand on sort d'un film, on a envie de faire plein de choses. Il y a des films qui nous donnent envie d'aller nous enfermer dans une chambre avec un amoureux. Il y a des films qui nous donnent envie de sortir et de crier. Des films qui nous donnent envie de ressembler à l'héroïne. Voilà, ça nous a donné envie de faire la fête. Bravo Edouard Baird.
Bravo Edouard Baird. Et il y a aussi la période Festival de Cannes, en tout cas les deux années hein, où vous y êtes allée. Sophie en parle, elle parle d'un bain de minuit, ça m'intrigue, Rebecca.
Alors là, on en a. Bah,
si
oui,
c'est, c'est dévoilable hein, après-jeu.
Bah non, mais c'est surtout que je pense qu'il devait y avoir beaucoup d'alcool et il y en a peut-être eu plusieurs parce que j'ai plusieurs souvenirs qui se superposent. Là, il y en a eu un, la dernière édition, c'était avec la présidente du jury de l'autre jury de la semaine de la critique, Andrea Arnold, qui est une réalisatrice avec qui je me suis vraiment bien entendue. On s'est bien marré. Effectivement, on a délibéré chacune avec son jury côte à côte. Après, on s'est dit, bon, bah, on va se baigner.
Comme ça.
Ouais.
Un vrai bain de minuit, alors.
Ouais, vrai bain de minuit. Bon, le lendemain, je me suis rendu compte que c'était ridicule de m'être montrée en culotte devant des journalistes et de la presse étrangère.
Vous n'êtes pas sous contrôle.
Mais non, je ne suis pas sous contrôle, mais j'aime pas le discours qui dit qu'on est wild, en fait. Voilà.
D'accord. Entre le discours et les actes, il y a beaucoup de pas. Il y a aussi des perfectos. Hein. Sophie Masse en cite 3, il paraît que vous en avez 12. C'est vrai?
J'en ai beaucoup. Mais je suis obsessionnelle sur pas mal de choses d'un point de vue vestimentaire. Ouais. J'ai les mêmes. Ouais.
Pas que sur les perfectos?
Ouais, on va dire des vestes bleu marine, des chemises. Oui, bon, enfin, ça, c'est moins intéressant. Mais oui, j'ai beaucoup de perfectos, toutes les couleurs. Je me rends compte que je suis...
Et puis, à un moment donné, on entend Kate Moss. Alors là, ça m'intrigue, parce que nécessairement, je pense à Kate Moss. Vous l'avez rencontrée avec vos perfectos, Rebecca?
Alors,
qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais c'est une autre histoire, mais c'est hyper long. Non, mais...
Non, on n'a pas le temps.
Ah, c'est hyper long.
Vous ne l'avez pas rencontrée, quoi, c'est ça?
Ah non, je ne l'ai pas du tout rencontrée. Enfin, si, je l'ai croisée une fois, c'était drôle. Je suis arrivée à Londres un jour, puis j'étais prise dans les embouteillages en sortant de la gare, comment elle s'appelle, cette gare Saint-Pancras. Et j'étais en voiture, et à côté de moi, il y avait, voilà, on avançait en fil serré, et la voiture qui était à côté, qui est restée à côté pendant 10 minutes, c'était un taxi londonien, avec, à l'intérieur, je me suis retournée, je me suis dit, mais c'est Kate Moss. Et elle avait ouvert la fenêtre, elle fumait des clopes à la fenêtre, et je me suis dit, c'est génial, c'est vraiment l'office de tourisme de Londres qui envoie Kate Moss faire des tours autour de la gare pour accueillir les habitants, se dire, génial, je suis vraiment là, quoi.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Dernière question sur ce portrait intime, on va dire, fait par Sophie, votre amie. Est-ce que il y a beaucoup de voyages là, quand même, dans ce portrait? Il y a énormément de il y a le Bosphore, il y a Syracuse, j'en cite plusieurs. Mais c'est quelque chose d'important pour vous? Vous êtes une voyageuse, Rebecca?
Alors, de fait, je voyage, mais je suis pas folle des voyages. C'est-à-dire, j'ai toujours besoin. Enfin. J'adore, oui, je suis une voyageuse, oui, je voyage, je pense même que je fais des films pour pouvoir voyager, pour aller un petit peu sur d'autres pays, d'autres territoires. Enfin, j'aime bien découvrir des territoires, mais j'aime bien découvrir des territoires pour une raison. Il n'y a rien de plus bizarre pour moi que de voyager pour des vacances. J'ai peu de choses, enfin, je ne suis pas curieuse au point de... J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me dise, viens, on va voir ces choses-là. Voilà. J'ai un peu besoin des autres.
Non, mais je le vois. C'est bien d'avoir besoin, on est un peu tout seul sinon, c'est triste.
Oui, bah oui.
Ouais. Et on revient au travail, d'accord? On revient au travail, c'est important le travail, votre travail. À un moment donné, on entend aussi Sophie parler de l'éducation nationale, on en a parlé tout à l'heure, de ce choix de choisir peut-être... Alors j'allais dire une vocation, mais par rapport à ce que vous me dites depuis tout à l'heure, le cinéma, on peut dire que le cinéma est une vocation ou pas dans votre vie?
Je pourrais pas le formuler comme ça, je dirais que c'est vraiment... À un moment, il se trouve que...
Un chemin, on choisit.
Je dirais même, c'est une restriction du champ des compétences. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire ça. Et en même temps, il y a un courant comme ça, une lame de fond qui vous porte vers votre désir, quoi. Moi, j'avais cette passion-là depuis longtemps, mais je vous en ai touché un mot. C'était difficile, familialement, de m'y abandonner, quoi. Donc, j'ai fait un très long détour, puis un détour qui m'a plu, puis un détour qui m'a nourri, qui m'a porté. Et jusqu'à un moment, je me suis rendu compte que ça n'allait pas pouvoir être une vie. Puis aussi, j'étais un peu j'ai buté sur des trucs, quoi, hein, dans l'éducation nationale.
Vous avez enseigné?
Ouais, j'ai enseigné, j'ai adoré ça, j'ai adoré enseigner. J'ai enseigné un peu à la fac, j'ai enseigné un peu au lycée. Et les deux, j'ai aimé, j'ai adoré ça.
Vous avez enseigné? Mais le cinéma,
j'enseignais le français au lycée, pour une classe de seconde, et le cinéma documentaire, je faisais j'étais chargée de cours sur le scénario documentaire. C'était vraiment le documentaire qui m'intéressait, même à l'époque, quelque chose qui était un peu vague, qui aujourd'hui peut nous paraître un peu dépassé, qui était un peu, moi, ce que je trouve être un très beau mot, le cinéma vérité. J'étais très... j'adorais Rouche, j'adorais les frères Mels, j'adorais Morin. Enfin, voilà, j'étais vraiment marqueur. Enfin, voilà, j'étais vraiment très, 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 très attirée par ce cinéma qui était un cinéma quasiment... qui observait, quoi, au bord de l'ethnologie. Et après, je me suis rendu compte
que... Le réalisme social, ça vous parle ?
Ouais, ouais, ouais.
Les frères Dardenne aussi ?
Alors, les frères Dardenne, c'est curieux parce que j'y suis arrivée très, très tard. C'est-à-dire, je pense que le cinéma, pour moi, c'était la possibilité soit d'être... dans l'observation pure, soit d'être dans de l'anthropologie, soit d'être dans un truc qui montrait la vie des riches. Voilà. Donc j'avais du mal à aller voir les films qui me montraient la vie des pauvres. C'était bizarre, enfin c'est hyper violent de le formuler comme ça, mais c'était, je pouvais pas aller. Alors je pouvais le voir dans le néo-réalisme, je pouvais le voir quand il y avait de la distance, mais un film qui sortait à l'instant T. Entre 14 et 20 ans, jamais de ma vie j'aurais payé ma place pour voir. Ça, j'ai mis très longtemps à voir Rosetta. J'avais besoin, moi, le cinéma, c'était fait pour me faire rêver, pour me sortir
trop
d'une condition.
C'était trop brutal.
Bah, même faire rêver, parce que même parfois c'était des merdes, hein, que j'allais voir, mais je préférais toujours voir une merde qui était du côté
lumineux de la force.
Ouais, du côté des gens qui étaient dans le confort. Enfin bon, bref, j'en sais rien. Ça me faisait rêver. Et donc j'ai découvert les frères Dardenne très très tard, et je me suis pris une claque énorme. Et pour moi, alors je les ai découverts au moment. Enfin, quand je vous dis très tard, c'est quasiment il y a deux ans, hein, il y a un an.
Ah oui.
J'avais pas vu leur film avant. Et j'ai découvert ce que c'était que d'être des cinéastes qui avaient la foi, qui étaient quasiment, pour moi, c'est des grands humanistes, c'est quasiment des curés, mais dans le bon sens du terme. C'est des mecs qui prêchent la bonne parole, ce qui simplifie considérablement, je pense, leur tâche au scénario. Enfin, ce qui envoie loin le scénario. Quoi. Moi, il y a des questions que je me pose qui sont des questions datées, datées, c'est marrant. Allô, Jacques Lacan. Lacan, c'est peut-être daté aussi, mais daté des apostrophes A-T-H-E. Que eux ne se posent pas, ouais.
On est perdu un petit peu sur le daté, là.
Ah ouais, ouais. Moi, je suis athée. athée. C'est des questions athée, d'une personne qui n'aurait pas la foi.
D'accord.
Sauf que je me suis rendu compte que c'était peut-être des questions datées, quoi.
D'accord. On va faire une
pause, là.
Une petite pause, mais surtout une... une pause, mais agréable, je crois. Une pause où je vais vous demander de répondre à des questions de manière un peu mitraillette, d'accord ? Et si vous avez envie d'expliquer pourquoi vous me donnez cette réponse, eh bien, allez-y, gaiement.
Si vous étiez
une affiche de film, Rebecca.
Ah, il y en a une. Bah, c'est marrant, moi je vais dire plutôt La Belle Personne, hein, parce que elle m'a beaucoup marquée. La Belle Personne d'Honoré.
Sur l'affiche. Hein.
Ouais.
On en a parlé tout à l'heure.
Enfin, c'est un portrait chinois ou c'est ce qui me plaît ? Parce que c'est pas pareil.
Non, c'est esthétiquement une affiche de film.
Oh, ouais, bah, La Belle Personne, elle était très belle.
La Belle Personne. Allez, je la fais. Un autre réalisateur que vous.
Un autre réalisateur ou réalisatrice ?
Ah oui, bien sûr. Oui, malheureusement, le masculin l'emporte. Alors, un autre réalisateur ou réalisatrice ? Un joker dans cette interview ?
Bah non, mais je n'ai pas de joker à donner. J'ai Céline Sciamma. Il y a une sorte de parcours très, très... pour moi, c'est vraiment une fille qui est sortie de la Fémis avant moi, deux ans avant. Et je ne sais pas, je trouve que tout est remarquable dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait... Bon, gros big up, Céline.
Gros hommage.
Gros hommage. Non, mais elle le sait, on s'aime beaucoup, on est amis. Mais je dirais, j'ai souvent regardé vers son parcours pour savoir comment se sentir plus libre dans le mien, comment savoir ce à quoi on pouvait avoir accès, comment avoir des inventions dans les dispositifs de production des films, de fabrication des films. Je trouve qu'elle a une... C'est remarquable, ouais.
Une paire de chaussures.
J'en ai tellement.
Comme les Perfecto.
J'irais des crêpers triples, qui étaient celles de ma soeur que j'avais chopées quand j'étais gamine et qui faisaient ma joie.
C'est votre côté old school, un peu
punk, quoi.
Dans vos films, vous aimez aussi les scènes de rencontre.
Oui.
Quelque chose qui est important. On m'a soufflé cette phrase bien connue, et leurs yeux se rencontrèrent. Une scène de rencontre dans un film, si vous étiez une scène de rencontre dans un film, dans un livre.
Alors il y en a plein, parce que vous ne pouvez pas tomber plus juste, c'était quasiment mon sujet de thèse. J'ai fait un truc sur la rencontre amoureuse. Et donc j'ai jamais terminé, donc je suis incapable de... Et leurs yeux se sont rencontrés, un magnifique ligne. C'est dans quoi? C'est le Stendhal.
C'est dans Flaubert, L'éducation sentimentale. Ouais.
Oui. Non, bon, alors c'est dans Flaubert. Et c'est comment il s'appelait, ce
Jean Rousset,
voilà, parce que je comprends Clément Rousset.
Jean Rousset,
génial livre sur les scènes de rencontres amoureuses.
Alors la première, comme ça, je sais pas,
vous avez vu comme je fais des chut pour pas répondre.
Oui, bien sûr.
Une scène de rencontre amoureuse qui me plairait beaucoup. Bah, hier, en fait, j'ai revu Cabaret de Bob Fosse. Ouais, Bob Fosse, hyper important dans ma vie. Et j'ai revu Cabaret, et je crois que c'est pas vraiment la rencontre amoureuse, mais c'est la deuxième rencontre. Moi, ce qui me plaît, c'est pas quand les gens se rencontrent, c'est quand ils se soumettent à leur désir. Et je trouve que leur manière de se... Alors que lui est sans doute un peu pédé, elle sans doute un peu hystériquement séductrice, et ce moment où ils s'embrassent et ils comprennent que bah non, c'est plus juste des baisers entre amis, mais ça va être un baiser d'amoureux, et ils le font en explosant de rire. Voilà, j'adore. Je pense que c'est comment ajouter le plus léger, le plus ironique dans l'amour fou. J'adore.
C'est beau ça. Un instrument de musique, parce qu'on va
le violoncelle.
Le violoncelle.
Ouais, j'en ai joué très longtemps. Ouais, ouais.
Toujours.
Ouais, j'en ai racheté un il y a pas longtemps parce que j'avais dû filer le mien, et ah, c'est dur hein, de trouver le temps de dans sa vie civile de se dire ah tiens, je vais faire un petit peu de violoncelle. Mais j'adore, j'en ai joué très longtemps, j'adorais ça.
On va vous laisser souffler un petit peu. Vous avez apporté une musique.
Oui, j'ai apporté un morceau.
Laquelle?
Ça s'appelle... et d'ailleurs, je pense que Sophie Mass a dû en parler dans le portrait, parce que c'est un morceau qui, pour moi, fédère mes amitiés féminines. Mm-hmm. Et qui revendique, mon ami Gaëlle Plod, qui revendique un truc de féminisme aussi dans du rap un peu hardcore, qui d'habitude est pas mal misogyne.
Dans une cohérence musicale aujourd'hui.
Ouais, grosse cohérence. Grosse cohérence de Bounce. Et c'est My Neck, My Back de Kia.
On écoute?
Ouais. Allez. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it. Do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, lick it good, suck this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy. Neck into it, don't stop, just do it, do it. Then you roll your tongue from the crack back to the front, then you suck it all till I shake and come, nigga. Make sure I keep busting nuts, nigga, all over your face and stuff. Slow head, show me so much love. The best head comes from a thug. The dick good, thick, big and long. Slow puff until the crack of dawn. On the edge, make your faces and stuff. Through the night, make it so much love. Dead sweet when the sun comes up. So lick it now, lick it good. Lick this pussy just like you should. Right now, lick it good. Lick this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. You might roll dubs, you might have G, but fuck that nigga, get on your knees. A bitch like me moans and screams. The missus know what I mean. At the club, fresh, so clean. A whole hate of niggas watching me. So high in the line on green. With a unit on my face, so mean. I got the pit, what nigga I need. To suck at thug, nigga, satisfy me. You try me, I make you see. Your bitches ain't got shit on me. So lick it now. My pussy and my crack.
Rebecca Zlotowski. Oui, dans l'instant 2 aujourd'hui, on a écouté My Neck, My Back. Vous finissez, Rebecca?
My Pussy and Suck My Crack.
Chut, Rebecca. Non, pas de. C'est un salut. Parce que... Alors non, du coup, cette chanson, pourquoi cette chanson? Vraiment, pourquoi ce morceau? Ça me plaît de savoir.
Il me plaît, on s'en est parlé là tout à l'heure un tout petit peu. Il me plaît, je trouve qu'il y a, D'abord, je trouve super entraînant, hyper dance floor, et j'aime bien j'aime bien sa voix, sa proposition libérée, quoi, affranchie. J'aime bien les femmes affranchies.
Vous êtes une femme affranchie, Rebecca?
Je pense, ouais. J'essaye.
Affranchie de quoi?
Bah, affranchie de la convention, affranchie du dogme, affranchie des. J'essaye de. Enfin, c'est vraiment une lutte hein, quotidienne, mais j'essaye de ne pas me conformer au schéma. Familiaux, aux schémas artistiques, aux modes. Enfin, c'est quand même mieux quand on se sent libre.
Oui, c'est bien mieux. C'est bien mieux. La suite, on va dire, dans un futur très lointain de vos projets de films, je peux en avoir un petit peu?
Alors, là, ça va être un peu long. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit long, mais alors, c'est vrai que c'est long quand même, le cinéma. Ça prend, enfin, pour moi, c'est toujours long à écrire, mais j'écris avec d'autres personnes. J'écris le prochain film de Teddy, Lucie Modeste, qui est pour moi l'un des metteurs en scène les plus troublants de ma génération. Il y en a d'autres que j'adore hein, dans ma génération, mais je n'écris pas avec eux. Et on fait un film que je trouve... je crois que son prochain film va être très très beau, sur une histoire hyper brûlante de contemporains, et en même temps, comme toujours chez lui, un peu à la Elia Kazan. Quoi. Enfin, moi, il y avait quelque chose qui me plaît vachement chez lui. Et je travaille... pour moi, pour un prochain film que j'écris avec Robin Campillo, qui est un metteur en scène. Enfin, en fait, c'est drôle, cette idée qu'on puisse travailler les réalisateurs les uns avec les autres. Voilà. Je travaille toujours avec ma scénariste Gaëlle Massé, mais c'est vrai que là, j'ai rencontré aussi pour ce film-là un réalisateur. Et le fait de moi être une réalisatrice qui travaille pour Teddy, je me rends compte que c'est des binômes qui fonctionnent bien. J'adore ça.
Donc, vous allez continuer à travailler en groupe, en commun, en communauté, en tribu, je ne sais pas comment on peut dire ça.
Ouais, donc on va continuer à partouser tous ensemble.
Alors ce sera le mot de la fin, j'ai envie de dire. Gardons ça, gardons le mot de la fin. Merci beaucoup Rebecca d'être venue.
Merci à vous.
Ici, dans les studios, on va le dire, de Normal Sup, hein, c'est ça, l'ENS. Merci à Pierre aux commandes de cette émission, à Katia, notre chargée de production du jour, à Roxana Nadim pour la mise en lien et le contact qu'elle sait si bien faire, et puis à Sophie Masse d'avoir fait ce portrait intime pour
vous. Merci Sophie Masse, qui m'a tiré des larmes.
Voilà,
je vais l'appeler.
Vous allez pouvoir l'appeler tout de suite. Ouais. Est-ce que voilà, Rebecca est en train de prendre son portable et d'appeler Sophie pour ce portrait. C'était l'instant 2 avec vous, Rebecca Zlotowski. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et
à
belle
bientôt.
Route libre.
Vous
et
aussi.
Affranchie.
Vous aussi.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Instant 2. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.